France Inter. Le 18-20.
Évidemment, la maternelle n'est pas étrangère à une écrasante majorité d'enfants, mais il y a les autres, 25 à 30 000 enfants qui passent au travers, ce sont des choix des parents. Il y a surtout le constat que c'est là, dans ces toutes petites classes, que l'on peut détecter, donc rattraper un retard qui pourrait, sinon, peser sur toute une scolarité. Regard notamment de langage ou de vocabulaire, et on en parlera. Rendre obligatoire l'école dès 3 ans, rend donc obligatoire le passage par la maternelle. C'est une manière de bien montrer que ce passage avant le CP n'est pas une garderie XXL, c'est bien le début de l'école, c'est en tout cas l'idée du gouvernement et ce qu'il entend faire passer, ce qui se discute, ce qui s'est discuté pendant 2 jours aux assises de la maternelle. Mais du coup, c'est quand même un peu effrayant de se dire que tout se joue là ou en grande partie. Alors qu'est-ce que ça veut dire en termes de conditions d'accueil, en termes de formation des maîtres et des maîtresses, en termes de nombre d'élèves par classe, surtout dans ces sections-là? Nous sommes là pour en discuter et bonsoir.
Fabienne Saintès. Le téléphone sonne.
Karine, c'est vous la première. Soyez la bienvenue. Bonsoir.
Bonsoir à tous. Merci d'avoir pris mon appel et merci pour la grande qualité de vos émissions que ce soir j'ai la chance de pouvoir suivre intégralement.
Formidable.
Voilà. Donc effectivement, je voulais profiter et donner un petit témoignage. Je suis maman de 3 enfants et les 3 enfants ont fait leur école maternelle en Bretagne, dans une petite ville avec une école formidable et des enseignants très dévoués, bienveillants, compétents, vraiment formidables. Mais alors, avec des classes à 30, voire 32 enfants tous les ans, les petits de 3 ans qui n'avaient jamais mis les pieds à l'école se retrouvaient baignés du jour au lendemain. Et pour toute la journée, puisque tout le monde travaille, les parents travaillaient tous, pour toute la journée, dans une ambiance avec 30 enfants qui pleurent, qui comprennent pas ce qu'ils font là, et 2 adultes qui font leur maximum pour s'occuper d'eux. Donc ça, c'est quand même un point d'interrogation. La maternelle, pour tout le monde, c'est certainement formidable, mais dans quelles conditions? À la fin d'une année, ma petite Anne-Gaëlle, l'instituteur, le professeur des écoles, me dit gentiment « Mais je crois que je n'ai pas entendu sa voix cette année.
» Voilà. Terrible constat. J'espère que ça s'est bien passé après pour Anne-Gaëlle. Visiblement, ça s'est bien passé pour Anne-Gaëlle. Mais merci en tout cas, Karine, pour ce témoignage de démarrage et qui pose bien un certain nombre de choses dont on va évidemment parler ensemble jusqu'à 20h. Et pour en discuter ensemble, Isabelle Racoffier, là, bonsoir. Vous êtes directrice d'école maternelle. Vous êtes présidente de l'Association Générale des Enseignants des Écoles et Classes Maternelles Publiques. Ève Le Gallant, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes inspectrice mission école maternelle, conseillère du recteur pour l'enseignement pré-élémentaire. Et Alain Mentolila, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes linguiste et professeur à l'Université Paris-Descartes. Isabelle Racoffier, c'est à la directrice d'école que je m'adresse d'abord. Elle a raison, Karine. 30 à 32, tout petit à 3 ans, c'est difficile.
Oui, c'est énorme. Et l'AGEM défend depuis toujours un nombre plus limité d'enfants, et notamment une quinzaine en toute petite section. Et puis aussi 20-25 dans les autres classes. Avec aussi une ATSEM par classe, parce qu'on n'est pas trop de 2, voire 3 quand on est à 32, je pense que
agent
c'est
technique
mieux.
Spécialisé dans les écoles maternelles,
voilà.
Pour les ATSEM.
Agent territoriaux.
Agent territoriaux, pardon.
Spécialisé pour moi. Des
Absolument.
Écoles maternelles.
Ouais. Voilà. Oui, donc 30 élèves, effectivement. Comment on fait pour, si on veut rescolariser tout le monde, on va dire, donc on a dit combien, 25 à 30 000 supplémentaires, on parle de 800 postes supplémentaires, ça a du sens, selon vous? La mathématique, l'équation est la bonne ou pas?
Après, c'est monsieur le ministre et le gouvernement qui va décider, mais comme nous en avons parlé durant ces assises, investir dans l'enfance, c'est être rentable sur le long terme. Puisqu'on sait qu'un euro investi, c'est 100 euros, on parle souvent en dollars, c'est 100 dollars d'économiser par la suite, parce que c'est aussi des problèmes sociaux que nous n'aurons pas réglés, parce que les enfants ne seront pas illettrés, auront un niveau de langage beaucoup plus élaboré et pourront s'investir beaucoup plus dans la société et être plus épanouis dans cette société. Donc peut-être on peut faire ce choix et se dire qu'on met vraiment de l'argent dans la petite enfance et dans l'école pour justement avoir une société beaucoup plus équilibrée sur le long terme.
Ève Le Gallant, sur le nombre d'élèves par classe, effectivement, ce sont des questions qui reviennent beaucoup au 01 45 24 7000 pour que ça marche, honnêtement, pour qu'il n'y ait pas un professeur des écoles en train de dire « moi, je connais pas le son de la voix de votre fille ». Est-ce que c'est quoi? C'est comme le CP désormais dans les lieux défavorisés, une douzaine d'élèves. Dans l'idéal, c'est à ça que ça ressemble, d'idéal.
Un premier point quand même, moi je connais bien l'école maternelle, j'y étais enseignante il y a des années et il y a à peu près 20 ans que je suis inspectrice un peu spécialisée, nous avons de grandes variations en fait du nombre d'élèves par classe. Si je prends mon territoire sur Paris, on a des classes qui oscillent entre 26-27 et 30-31, c'est pas tout à fait la même chose. Donc depuis quelques années quand même, on a vu baisser ce qu'on appelle le ratio post-élèves, c'est-à-dire le nombre d'adultes disponibles par rapport au nombre d'enfants. Donc on a quand même plutôt bien évolué dans ce sens-là. Quand j'étais jeune enseignante en école maternelle, il y a très 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 longtemps, j'en avais 34, de 3 ans à 7 ans. Donc bon, je pense qu'on a bien évolué pour alléger les effectifs et mieux travailler la relation aux élèves. Ceci étant, moi je suis absolument admirative de constater le travail que font les enseignants, parce que c'est mon métier d'aller dans les classes, d'observer ce qui se passe, d'expertiser
de noter
les compétences. On ne note plus, chère madame. Non, on accompagne les carrières des enseignants depuis cette année. Je constate combien leur technicité, leur manière d'organiser l'espace, leur manière de se rendre disponible pour certaines activités, d'autonomiser les élèves, surtout quand on part vers les grandes sections, est extraordinaire parce que ça vit, le groupe vit, les enfants s'auto-organisent, il y a des relations entre pairs qui font qu'on apprend aussi en étant en fait dans des activités qui sont soutenues par les plus aguerris, qui prennent en charge les plus petits. Donc les enseignants en bonne professionnelle, les enseignants en bon professionnel, excusez-moi, je ne vais pas tout mettre au féminin.
On en est quasiment là. Hein.
Voilà, bon. On une technicité absolument remarquable pour que les enfants évoluent dans le bien-être, qu'ils soient accompagnés dans leurs apprentissages et qu'ils puissent se dire à la fin de leur journée de maternelle, c'était bien l'école, maman. Donc bon, je n'ai pas le sentiment quand même, sauf cas exceptionnel peut-être, on en parlera peut-être, que les enfants ne sont pas bien à l'école maternelle aujourd'hui.
Et on parlera effectivement également des compétences particulières des enseignants pour dans ces classes-là. Je voudrais quand même finir le tour de table, Alain Mandolina, parce qu'encore une fois, j'ai été interpellée par ce que dit Karine sur le son de, la voix de sa fille. Absolument. Or, on a l'impression que la maternelle, ça sert surtout à ça. En fait, pouvoir entendre les enfants pour évaluer où ils en sont, parce qu'à ce stade-là, c'est par les mots, la parole, le vocabulaire qu'on sait à quel stade ils sont, en fait.
Oui, ils ont besoin d'une écoute attentive, vigilante, d'une parole directement adressée à chacun d'entre eux. Pouvoir dire à un enfant qui raconte une histoire, je n'ai pas compris et nous n'avons pas compris ce que tu as dit, et l'accompagner dans une précision supplémentaire afin qu'il soit compris et lui dire maintenant tu vois, tu as fait un effort et tu es compris. Ça ne peut pas se faire quand on a entre 25 et 30 élèves. Il faut le dire, je l'ai dit au ministre de façon très claire, il l'a dit dans son livre. Dans son livre, il était priorité pour le dédoublement des grandes sections d'école maternelle. Moi, nous travaillons à Amiens sur les CP dédoublés. Nous venons de faire la deuxième évaluation, je vous la livre d'hier. L'écart entre REP+ et hors REP est en France de 10 points depuis 1990. Le suivi que l'on fait à l'heure actuelle, la formation que l'on donne et le dédoublement fait que cet écart a été réduit de moitié.
Déjà,
donc, en milieu d'année. Alors, c'est pas un miracle. Ça veut dire tout simplement, nous suivons vraiment de façon très précise et les DAZN et les IEN et les conseillers pédagogiques sont avec nous sur ce travail. Ils voient que les postures pédagogiques ont changé. Travailler, vous avez 12 enfants, vous faites deux ateliers de 6. Un atelier de 6, c'est la possibilité vraiment d'écouter chacun. Et quand la dame dit qu'on n'a pas entendu la voix de sa fille, parce que il y a des enfants qui se cachent, il y a des enfants qui ne prennent pas la parole, ils se noient dans la masse. On ne s'en rend même pas compte. Et ces bains de langage, en fait, sont des bains où certains enfants n'émergent pas.
On va revenir sur ce qu'il doit émerger, en fait, chez les enfants de ces classes de maternelle. Mais puisque Magali nous pose une question sur les moyens, je voudrais qu'on l'entende. Bonsoir, Magali.
Oui, bonsoir.
Pour rester sur ce
thème.
Merci
d'avoir pris ma question.
Allez-y. Voilà.
Donc moi, je suis un parent d'élève dans une école rurale, dans le sud Vendée, à Saint-Hilaire-des-Loges, très exactement. Et puis, cette année, nous avons appris que nous allons avoir un gel de classe, donc peut-être une fermeture à la rentrée, parce qu'on nous dit qu'il faut financer des CPA 12. Donc évidemment, on est d'accord qu'il faut donner plus chez les enfants qui en ont le plus besoin, sauf qu'on a vraiment le sentiment que c'est au détriment des écoles de milieu rural, où on n'est pas des nantis, c'est-à-dire que quand j'entends tout ce qui s'est dit précédemment, il y a quand même des difficultés en milieu rural pour accéder à une orthophoniste, un CESAD, 2 ans d'attente, un IME, enfin voilà, tous les services qui pourraient aider l'enfant dans sa scolarité, on les a pas, parce qu'on est aussi en désert médical, on n'a pas de pédiatre, par exemple, dans le Sud-Vendée. Et donc, du coup, je suis que d'accord pour dire il faudrait que des écoles à 12, mais moi, mon fils, il va être en CM1, CM2 l'année prochaine à 37, ma fille va être dans une grande section CPC1 à 30. Comment voulez-vous, à un moment donné, qu'on puisse entendre cette annonce et ne pas être en colère alors que ça fait un mois qu'on se bat contre l'inspection académique qui ne nous entend pas. D'ailleurs, j'espère que l'inspectrice de circonscription de Fontenay-le-Comte m'entend bien. Voilà, parce que effectivement, on continue des actions, on n'est pas entendu et nous, tout ce qu'on veut, c'est un retour de seuil dans les écoles en milieu rural. On n'a plus de seuil, c'est-à-dire qu'on nous dit vous avez un effectif qui est constant, voire en légère augmentation, mais peut-être que vous allez avoir une fermeture à la rentrée.
Merci beaucoup Magali. Et Ève Le Gallant vous a parfaitement entendu. Ève Le Gallant, on parle de disparité. Disparité, ça veut dire inégalité.
Tout à fait. Oui, ça c'est évident. On dit souvent l'école avec un grand E majuscule et en définitive, on parle de l'institution quand on en parle comme ça, mais la réalité du territoire français est extrêmement contrastée et très diverse. Et je souscris totalement à ce que dit cette maman. J'ai été inspectrice en milieu rural pendant des années dans les Hauts-de-France et je me souviens de quelle manière les parents et toute la communauté défendaient l'école parce que c'est le cœur du village, c'est le cœur de la communauté de vie. Et quand l'école est attaquée, on a le sentiment quand même qu'une partie du cœur de vie est dévitalisée. Donc je pense qu'il est important que les parents puissent aussi se mobiliser. Ceci étant, la gestion des moyens, c'est effectivement une enveloppe. Moi, je ne vais pas parler pour le DAZN ni pour le ministre. Je sais que l'allocation des moyens, elle est quand même en général bien évaluée et qu'il appartient après au directeur académique de faire les ajustements selon les réalités. J'ose espérer qu'on ne laissera pas des enfants en classe de plus de 30 parce que ça mettrait ces enfants en difficulté. Et ça mettrait en fait en plus l'enseignant dans une position assez difficile
surtout
aussi.
Surtout ce qu'on veut atteindre ne serait pas
atteint. Parce qu'il n'y a pas de disponibilité, bien sûr. Donc j'ose espérer que ces régulations vont avoir lieu et qu'on ne fermera pas des postes en alourdissant les effectifs d'un côté pour pouvoir faire fonctionner les CP à 12 ou à 14. Ça ne serait pas une bonne gestion.
Alain Mentolila ?
Je prends un exemple concret. Prenez 1000 enfants qui rentrent au cours préparatoire, donc qui sortent de la maternelle. Ces 1000 enfants, vous leur faites passer un test de vocabulaire pour voir quels sont les mots qu'ils connaissent, dont ils connaissent aussi le sens. Sur ces 1000 enfants, vous en avez 20% qui ont environ 250 à 300 mots. Les 20% supérieurs en ont un peu plus de 1500.
C'est un énorme écart.
C'est un écart considérable. Ouais. On ne joue pas dans la même cour, on ne dit pas le monde de la même façon avec 250 mots et 1500. Et on n'apprend pas à lire de la même façon avec 250 mots et 1500. Et ces enfants, si la maternelle ne joue pas ce rôle de réhabilitation linguistique, alors ces enfants ouvrent la porte du couloir de l'illettrisme, vous en parliez tout à l'heure. Et je rappelle simplement que les taux d'illettrisme des plus forts ne sont pas dans le 93, mais dans les friches rurales.
Isabelle Racoffier, moi, c'est le genre de choses qui me terrorise aussi quand on écoute ça. On se dit que si l'enfant rate ce passage-là, oui. si on ne voit pas qu'il y a un problème de vocabulaire, qu'il y a un problème de langage, ça veut dire que c'est foutu, en quelque sorte. Ou quoi, ça veut dire que le rattrapage, il va foutu, devoir se hein. faire au fur voilà. et à mesure.
C'est jamais foutu.
Alors, c'est pas foutu, mais c'est mal parti, non. on va dire.
Mais il part mal. Oui, mais c'est vrai qu'il part mal, ouais. évidemment.
Oui, je pense enfin il y avait deux choses, il y avait aussi tous les services qui n'existent pas à la campagne. Enfin moi j'ai eu l'occasion de travailler dans des zones comme ça où en fait il y a un peu un désert, c'est-à-dire qu'on est loin des structures sociales, on est loin de centres comme elle le disait par rapport enfin Magali disait par rapport aux orthophonistes, bien aux césars, ouais. etc. Et donc d'où l'importance d'avoir des réseaux d'aide aussi qui sont dans les écoles qui peuvent déjà faire un travail d'accompagnement en proximité, puisque eux se déplacent dans les écoles. Donc ça me donnait l'idée que peut-être il faudrait aussi des systèmes mobiles par rapport à ces services. Et puis l'autre chose, eh bien, après c'est travailler donc avec l'enfant sur... Pour qu'il acquiert ce vocabulaire, il a besoin de passer, un, par du sensoriel, du vécu, des expériences de vie, mais qui vont être mises en langage par l'enseignant et en accompagnant l'enfant. Et il y a des expériences qui sont très intéressantes, par exemple sur le jeu. Cette année, nous ferons un congrès à GEM, donc à Nancy, sur les enjeux du jeu à l'école maternelle. Et par exemple, il y a les expériences de l'Asforel, donc c'est une association qui travaille les principes de Laurence Lantin, ou avec des jeux de société qui sont travaillés avec à la fois les parents, les enseignants et les ATSEM, et puis les personnes qui accompagnent.
Et donc en fait, territorial spécialisé dans les écoles maternelles.
Voilà, pardon, oui, c'est bien. Excusez-moi. Et donc en fait, on voit que déjà, quand on n'utilise pas de déictique, c'est-à-dire arrêter de dire ça et là sans arrêt, mais qu'on formule, pose ce crayon sur la table, par exemple. Ah ouais. Déjà, c'est du langage. Mm-hmm. Donc chaque accompagnant doit utiliser ce type de phrase.
De vocabulaire. Ouais.
Et puis la deuxième chose qui compte énormément, c'est de reformuler un petit peu plus, de manière un peu plus élaborée à chaque fois que l'enfant parle. Donc ça se fait en jeu, mais ça se fait aussi quand l'enfant demande un accompagnement matériel, on va dire mettre son manteau ou aider à lasser des chaussures, etc. Et à chaque situation, on devrait avoir ces attitudes dans la tête. Alors je dis pas que ça résout tous les problèmes, mais déjà ça fait une grande différence de vocabulaire aussi.
Evelyne Le Gallant, est-ce que ça veut dire qu'il y a suffisamment de formation spécifique quand on est professeur des écoles en maternelle?
Alors,
pour avoir toutes ces clés-là, en fait. C'est pas les mêmes clés qu'un CP1, CE1, etc.
C'est pas les mêmes clés, c'est pas la même manière d'enseigner. Hein. On parle effectivement d'une pédagogie spécifique, on a raison. On n'enseigne pas à des jeunes enfants de moins de 6 ans en faisant en petit ce qu'on fait chez les grands élémentaires, ça c'est évident. Et puis par ailleurs, il y a une culture de la petite enfance qui est propre à l'école maternelle et je voudrais en profiter pour dire combien notre école maternelle française quand même a une notoriété internationale extraordinaire. Moi, il m'arrive d'aller travailler dans d'autres pays pour développer justement les systèmes préscolaires et le modèle en définitive qu'on prend comme base, comme référence, c'est le modèle de l'école française, donc maternelle française. Donc elle a eu en fait un temps de gloire absolument extraordinaire, sans doute depuis
donc
quelques années. Non, sans doute depuis quelques années.
Le temps est intéressant.
Depuis quelques années, pour des raisons que je ne vais pas expliquer maintenant parce que ça nous prendrait trop de temps, mais on a laissé partir, on a laissé filer cette pédagogie spécifique de l'école maternelle du côté d'une primarisation.
Et ça veut dire quoi? Pardon, je ne sais pas ce que ça veut dire.
Du côté d'une pédagogie, en fait, qui copie en adaptant en moins important et en plus petit ce qui se fait au primaire.
D'accord.
Or,
donc on fait une espèce de prépa au primaire, en fait.
Le
cours préparatoire.
Une édulcoration en fait du primaire en adaptant quelques stratégies. Et il est en fait question de changer ça. Pour deux raisons. D'abord parce qu'il faut retrouver la culture propre de la petite enfance à l'école, qui faisait la notoriété de notre école maternelle. Et puis, par ailleurs, les enfants d'aujourd'hui ont des besoins particuliers. On a une génération qui a évolué, qui vit dans d'autres milieux de stimulation. Le foyer parental n'est pas le même que celui d'il y a 10 ou 15 ans. Donc, il faut qu'on puisse retravailler sur des pratiques pédagogiques qui répondent bien aux premiers soucis et aux premières missions de l'école maternelle, l'épanouissement et le bien-être de l'enfant, et l'accompagnement des enfants vers la découverte et les apprentissages. On a les deux à recombiner.
Alain Mendolila, qui très sagement et comme à l'école, a levé la main pour prendre la parole. Allez-y.
Oui, moi je suis très sage.
C'est la maîtresse.
Vous avez peur en fait, en face de ces maîtresses. Allez-y. Voilà.
Non, mais la question c'est que la médiation dont bénéficient les enfants au niveau familial a changé, et je dirais elle s'est amoindrie. Pour toute une série de raisons, parce que les grands-parents sont moins dans le milieu familial, parce que nos compagnes ont légitimement revendiqué le droit de mener une carrière professionnelle à part entière, et c'est formidable, et c'est très bien comme ça, mais il n'en reste pas moins que cette relation régulière et quotidienne avec l'adulte, beaucoup d'enfants l'ont peu ou pas. Et donc, incombe alors à l'école maternelle, parce qu'on dit obligation d'instruction.
Oui, à partir de
6 ans. L'école maternelle, c'est pas l'instruction. L'école maternelle, c'est l'éducation. On éduque les enfants. On éduque les enfants sur beaucoup de choses. Mais à partir de ce moment-là, l'école maternelle doit faire en sorte que ces enfants, par exemple, acquièrent un vocabulaire plus précis, que ces enfants puissent écouter des textes lus par la maîtresse et réfléchir au sens qu'ils ont. Et je reviens sur cette question, on ne peut pas le faire si on n'a pas un ratio maître-élève convenable.
Une question pour Hélène Racoffier, la directrice d'école. Isabelle. Une question qui nous vient de Brigitte, donc rien à voir avec Hélène. Allez savoir. Mon petit-fils est dans une classe double où sont regroupés des élèves de CM2 et des élèves de grande section de maternelle. Que pensez-vous de cette association ?
Oui, quelquefois nous faisons des associations de ce type parce qu'il y a un accompagnement justement des enfants de CM2 qui accompagnent les plus jeunes. Et on a des expériences qui sont très intéressantes parce que ça les amène aussi au vivre ensemble. Parce que dans une famille, on a aussi des fratries qui ne sont pas du même âge. Après, il y a sans doute des organisations spécifiques dans cette classe. Mais on peut faire un travail qui est très riche parce que souvent, il y a un tutorat entre le grand et le petit. Il peut y avoir...
Mais justement, est-ce que ça risque pas d'être une prépa CP, comme on disait tout à l'heure, quand on met les deux en même temps
Après, je pense vraiment que ça dépend...
L'hypocagne du CP.
Il faut leur apprendre ce qu'ils savent.
Je parlais aussi par rapport à l'autonomie. Oui. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire ensemble et des choses donc qu'on peut partager. Et après, il peut y avoir des temps d'atelier comme dans une classe maternelle où on ne fait pas obligatoirement la même chose en même temps.
Bonsoir Christine.
Oui, bonsoir.
Soyez la bienvenue sur Inter, Christine.
Merci. Donc moi, ce serait pour donner un petit peu mon expérience. Bon, c'est vrai que mes enfants sont grands maintenant. Donc j'en ai 6. Ils sont étalés dans le temps. Je les ai mis à l'école à 3 ans, effectivement. Et parce que, bon, pour une question de commodité, disons, personnelle, peut-être, et puis aussi, bon, parce qu'on disait que les enfants se socialisaient à l'école, que c'était bien, bon, à l'école maternelle, et moi, ce serait à refaire, je ne les mettrais pas à l'école à 3 ans, je les mettrais plus tard, parce que, donc, ça s'est pas très bien passé pour certains d'entre eux. Ce sont des enfants qui sont... assez intellectuel, disons, et assez réservé. Et donc...
Pas bien passé, pardon Christine, de vous interrompre, ça veut dire quoi, en fait ?
Bien passé, ça veut dire que, déjà, il criait pour aller à l'école, il n'était pas content, et puis, au fil des années, je me suis rendu compte que, bon, ils m'ont parlé, mais plus tard, et pour eux, ça a été une très mauvaise expérience. En particulier, bon, avec des... Si vous voulez, les maîtresses, c'est vrai qu'elles sont relativement débordées. Alors, de qui elles s'occupent ? Elles s'occupent des enfants qui sont très, très vivants, voire ceux qui tapent sur les autres, etc. Donc, mes enfants sont beaucoup fait taper, beaucoup, beaucoup. Je n'en avais aucun retour. J'étais jeune, bon, je ne me rendais pas très compte de ce qui se passait. Ils revenaient avec des bleus, mais soi-disant, bon, bah, ils s'étaient tapés contre quelque chose, etc., etc. Et puis, j'ai su après que ça c'était pas ça du tout, c'est que ça se passait assez mal. Les enfants se battaient entre eux, donc ils ont été assez effrayés par l'école. Et j'en ai plusieurs qui vraiment ont détesté l'école.
Mais Christine, est-ce qu'on peut pas imaginer que c'était un autre temps, en fait? Vous disiez qu'ils sont grands désormais. Peut-être que les choses sont un peu différentes aujourd'hui, non?
Désolée, les enfants sont les enfants. Ils sont d'autant plus violents encore maintenant. J'ai vu d'ailleurs avec mon aîné, mon dernier, c'était bien pire qu'avec les autres encore du point de vue du fait qu'ils se faisaient taper. Et puis les maîtresses, elles s'occupaient, comme je vous disais, de ceux qui étaient plus dynamique entre guillemets, donc c'était toujours les mêmes qui faisaient les ateliers toujours, et puis les miens, ben, ils restaient.
Et compliqué pour une question de nombre, on a compris ce que vous disiez, Christine, le fait que si vous aviez à le refaire aujourd'hui, vous referiez les choses différemment. Evelyne Le Gallant, forcément il n'y a pas toujours évidemment des expériences d'école de toute façon au sens large, de bonnes expériences d'école de la part des enfants,
oui,
bien sûr.
Oui. Ben oui, moi je suis un peu malheureuse que vos enfants aient vécu ça à l'école maternelle, parce que c'est quand même une école dont la vocation est effectivement de protéger les enfants. On dit souvent aux enseignants, et moi je le vois dans les classes, quand je passe du temps dans les classes, la première fonction de l'école maternelle, c'est effectivement la protection de l'enfant. On a le devoir de faire en sorte que les enfants soient bien traités, qu'il ne leur arrive rien de calamiteux. Et au-delà de ça, qu'ils puissent effectivement y trouver du plaisir, se construire dans la relation avec les autres et avoir une expérience qui reste une expérience de bonheur. Le bonheur à l'école maternelle, je pense que c'est ce qu'on peut souhaiter à tous les enfants. Et je pense que beaucoup d'enseignants travaillent dans ce sens-là. Du reste, si on s'appuie sur les textes qui organisent le travail des enseignants, relisons le dernier programme de l'école maternelle de 2015, réécoutons ce que dit le ministre.
Paraît-il est bon, en tout cas, qui plaît aux enseignants, je ne me trompe pas là-dessus.
Les orientations qu'on donne à l'école maternelle, c'est l'école de l'épanouissement, du bien-être et du plaisir d'apprendre. Donc, je pense que là, on a un programme qui nous permettrait de réaliser de bons objectifs pour tous les enfants et pour tous, vraiment.
Rapidement, Alain Bentolil, avant de retourner au standard.
Ça pose une question majeure qui est la formation des enseignants.
Alors, vous voyez, c'est là-dessus qu'on allait, dans cette direction-là qu'on allait aller. Et bien, cette question, tiens, c'est celle de Franck. Je vous la livre. Mes trois enfants ont eu la chance de faire une école maternelle primaire et primaire selon la méthode Montessori. Et il me semble que dans ce dispositif vanté par le ministre, l'important n'est pas tant le nombre d'élèves que la formation des professeurs, le matériel pédagogique. Qu'en pensent vos invités?
Les deux comptent. Je maintiens, si vous voulez, qu'il faut un nombre d'élèves raisonnable de façon à pouvoir travailler et accorder de l'attention à chacun. Et il faut former nos enseignants d'école maternelle de façon spécifique. Une enseignante d'école maternelle qui travaille avec des enfants de 3 à 6 ans et au CP, c'est pareil, a besoin d'une formation différente de celui ou celle qui va travailler avec des jeunes adolescents. Et donc, tant qu'on n'aura pas, on se sera pas mis ça dans la tête avec des filières spécifiques, vraiment depuis l'université, où on forme les gens. Alors, les syndicats vous diront, ah oui, mais alors à ce moment-là, ils pourront plus changer quand s'ils veulent. On trouvera des moyens. Mais il faut qu'ils aient une formation extrêmement. C'est pas parce que c'est de jeunes intelligences que pour autant on doit en rabattre sur la qualité de la formation. Au contraire.
On a une institutrice qui nous attend au standard. Pardon. On lui posera la question dans une seconde. Vous vouliez ajouter quelque chose, Isabelle Racoffier?
Moi, je pense que la formation qui est donnée aux enseignants de maternelle devrait être donnée à l'ensemble des enseignants, puisque tout ce qui est le rapport au développement de l'individu, au développement du langage. Je pense que déjà, un tiers de la formation devrait être consacré à l'école maternelle, puisque ça correspond à un tiers du temps de la fréquentation de l'école par les enfants. Je pense qu'après, il faut vraiment mettre en route des pôles de recherche, parce que on a, comment dire, un déficit sur il existe des recherches, mais peu de chercheurs travaillent entre eux et ces recherches ne sont pas forcément connues des enseignants. Donc il y a vraiment à réfléchir autour de ça. Et après, il faut il faut vraiment qu'il y ait des recherches-actions qui soient mises en place sur le terrain, c'est-à-dire le lien entre ces observations, ces questionnements de l'école et on y va, quoi. On a des apports des scientifiques et en même temps, on essaie de mettre en pratique dans les classes. On monte des expériences dans les classes. Pas des expériences forcément scientifiques, mm-hmm. mais des expériences didactiques. Et c'est en engageant tout le monde qu'on pourra faire avancer l'école.
Bonsoir Christelle.
Oui, bonsoir.
Démonstration par l'exemple, Christelle.
Alors,
vous
moi,
qui êtes institutrice.
Je vous appelle justement concernant la formation des enseignants maternels. Donc moi j'enseigne en maternelle depuis pas mal d'années. Et je voulais témoigner du fait que lors de ma formation à l'UFM à l'époque, j'ai eu une semaine de formation sur la maternelle. Mmh. En tout et pour tout.
Et vos jeunes collègues, vous savez comment ça se passe pour vos jeunes collègues? Est-ce que c'est toujours une semaine ou...
C'était la même chose. Mmh. Et donc, il fallait se débrouiller avec ça. En plus, cette semaine de formation, comme elle tombait à la période du carnaval, donc on s'est occupé d'aller dans une école pour aider à la préparation du carnaval. Donc, c'était extrêmement productif, comme vous pouvez l'imaginer. Mmh. Et en plus, si vous voulez, il se trouve que dans mon école, depuis plusieurs années, nous recevons chaque année des PES, donc professeurs d'école stagiaire, qui sont à mi-temps responsables d'une classe et à mi-temps en formation. Et qui, d'après les retours que ces personnes peuvent nous faire, se retrouvent extrêmement démunis.
Mmh. Et Christelle,
extrêmement démunis.
Alors vous avez votre expérience qui parle pour vous aujourd'hui, mais est-ce que vous seriez preneuse de nouvelles formations maintenant qu'on vous reforme, peut-être à d'autres méthodes, à d'autres choses? Est-ce que vous êtes demandeuse de ça?
Alors, si vous voulez, nous, avec des collègues, on est, même les enseignants dans l'ensemble, hein, au moins dans la circonscription dans laquelle je travaille, on est en principe toujours en attente d'expériences, pour faire des nouvelles choses, aller sur de nouveaux axes pédagogiques. On formule même des demandes, mais disons que les formations malheureusement ne sont pas à la hauteur de nos demandes. Si vous voulez, on nous met d'abord la formation continue s'est réduite à peau de chagrin. Moi j'ai le souvenir au début de ma carrière d'avoir fait des stages de 3-4 semaines d'affilée, des stages où j'ai réinvesti mais vraiment ce que j'avais pu construire comme savoir pendant cette période, alors que maintenant on a 18 heures par an de formation continue, la plupart en ce qu'on appelle en distanciel, on se retrouve devant l'ordinateur, et voilà quoi. Donc, et si vous voulez, bon, il y a des évolutions quand même positives, parce qu'on commence à parler un petit peu de Montessori, des choses comme ça. Moi je me suis intéressée il y a déjà pas mal d'années, j'essaye de pratiquer avec 3 bouts de ficelle dans ma classe, ce genre de choses. Et il y a pas mal d'années, j'avais demandé justement à éventuellement pouvoir avoir une formation Montessori et ça avait été un non ferme et définitif. Et tant mieux si les choses évoluent et que on commence à envisager le fait de pouvoir enseigner autrement. Et je voulais juste une autre remarque. Jusqu'à présent, j'avais en moyenne 27 à 30 enfants de petites sections, voire même une année de tout petits, petits, moyens. Mm-hmm. Et là, pour la première fois depuis, je crois que ça ne m'est jamais arrivé, j'ai démarré l'année à 22.
Mm. Et ça va mieux.
En plus, j'ai réussi à réquisitionner une salle qui servait de bibliothèque, qu'on a mis dans un endroit plus petit, et j'ai une classe qui fait pas loin de 80 mètres carrés.
Bah dites donc, c'est plus grand que mon appartement.
et ça change tout.
Et je veux bien vous croire.
C'est que du bonheur.
Christelle, pour qu'on puisse vous répondre, je vais devoir vous laisser. Merci beaucoup pour ce témoignage. Eve Le Gallant, d'abord sur la formation dont parle Christelle.
Très rapidement, de l'expérience que j'ai à l'école maternelle en tant que inspectrice, mais aussi en tant que praticienne. Moi, je dirais aujourd'hui, pour développer une pédagogie adaptée aux enfants d'aujourd'hui et qui réalise les objectifs qui sont les nôtres, la formation des enseignants doit prendre en compte la très bonne connaissance du développement du jeune enfant, c'est évident. Elle doit prendre en compte la pédagogie spécifique de la petite enfance et on peut s'inspirer d'un certain nombre de démarches. Les ateliers autonomes développées par Maria Montessori, sont une de ces démarches. Mais il n'y a pas que celle-ci. Hein. On doit posséder une très bonne didactique de l'enseignement du langage, de la langue orale. Le maître dans la classe est un maître de parole, c'est un modèle de langue. C'est celui qui va organiser la communication au sein du groupe et permettre aux enfants de s'approprier les mots pour le dire et de penser. Apprendre à parler, c'est apprendre à penser. La didactique aussi des mathématiques et monter des projets pour que le groupe des enfants puisse construire ces démarches d'apprentissage avec du sens, des choses qu'on réalise concrètes. Isabelle parlait tout à l'heure d'expérimenter dans la classe. Je pense qu'il faut qu'ils fabriquent les enfants. L'enfant est un être qui a besoin de toucher, d'expérimenter, d'explorer, d'agir avec son corps. Donc il faut le mettre en situation de fabrication. Et je dirais la dernière des choses qui permet de faire évoluer les pratiques, c'est de faire de l'observation de l'analyse pratique. C'est ce qu'on appelle la pratique réflexive. On a mis en œuvre des démarches dans sa classe. Il faudrait pouvoir prendre un petit peu de distance et se dire, puisqu'on est en essai-erreur quand on est pédagogue, hein, il n'y a pas de pédagogie de certitude. Hein, on est tout le temps dans des tentatives qui se régulent en fonction de l'intervention des enfants, analyser sa pratique et observer d'autres pratiques que la sienne.
Isabelle Racoffier, je voudrais qu'on ait le temps de prendre un autre auditeur. Allez-y vite.
Je voulais juste dire que justement à la GEM, c'est ce que nous essayons de faire. Là, cette année, il y aura un congrès du 4 au 6 juillet sur l'école maternelle en jeu. Et nous avons une soixantaine d'expériences qui sont menées dans les classes et que nous mettrons en lien avec justement des chercheurs qui viendront lors de notre congrès. Donc j'invite Christelle à venir nous rejoindre.
Alain Mendolila, très vite.
Oui, le jeu.
Ouais.
Mais pas que le jeu. Hein, l'école maternelle, c'est l'école. Hein, c'est l'école. C'est-à-dire que non. Mais je veux dire par là que on peut jouer à condition qu'on sache pourquoi on joue.
C'est pas forcément une dictée, l'école. Hein,
qu'est-ce qu'on cherche.
C'est ludique aussi.
Mais c'est une pédagogie. Mais évidemment. Mais ça ne veut pas dire que le jeu, c'est l'occasion, c'est l'occupationnel, etc. Surtout pas.
C'est le travail de l'enfant.
Ah oui, non, mais...
On vous attend, monsieur Ventoli.
Le travail de l'enfant.
Vous m'avez pas encore invité, donc je ne peux pas m'attendre.
Son métier, c'est sa vie.
Mais ça y est, vous êtes invité, visiblement. Il nous reste une petite minute et demie, je voudrais qu'on entende Yvan. Bonsoir, Yvan. Yvan, est-ce que vous êtes là?
Oui, je vous entends.
Vous avez été tellement patient, Yvan. Allez-y, on vous écoute.
Oui, bonjour. Donc, moi, je suis professionnel de la petite enfance, c'est-à-dire je suis auxiliaire de périculture, je suis en formation d'éducateur de jeunes enfants. Et ce que je voulais vous dire, c'est que bon, d'abord, j'ai entendu sur l'antenne de France Info, donc la même maison, hier, que l'école maternelle était le premier lieu d'apprentissage des enfants. Donc ça fait bondir, parce que non, l'école n'est pas le premier lieu d'apprentissage des enfants. Le premier lieu d'apprentissage des enfants, c'est la famille. Mmh. Et ensuite, je trouve qu'on ne parle pas assez de toutes les structures, les établissements d'accueil de jeunes enfants, que sont les multi-accueils, les crèches, donc, et les assistantes maternelles qui font aussi un travail considérable dans les apprentissages pour les enfants de moins de 3 ans et au-delà de 3 ans, et qu'il y a sur le marché du travail des professionnels qui sont très bien formés sur le développement de l'enfant dans les premières années de la vie, jusqu'à 7 ans notamment, que sont les auxiliaires de périculture, les éducateurs de jeunes enfants, les services petits en France, pour la plupart ils sont très bien formés, et qu'on n'entend jamais parler. Alors pourquoi est-ce qu'on considère toujours que c'est à l'école que tout va se passer, que dans ces écoles-là, les professionnels qui y travaillent ont des compétences, ils sont formés à des notions, mais que pour ce qui concerne le développement global de l'enfant, on n'introduit pas à l'intérieur de ces écoles des professionnels qui sont des experts de la petite enfance. Et ça, c'est incompréhensible.
Merci.
Et j'entendais votre intervenante qui disait que l'enfant, il aime, il lui faut, c'est du plaisir. Eh bien oui, il faut du plaisir, mais pour qu'il ait du plaisir, il faut lui laisser le loisir d'avoir le plaisir d'apprendre.
Yvan, vous allez entendre les bips et donc vous allez être coupé. Je suis absolument désolée, mais je voudrais vraiment qu'on vous réponde. Voilà, ils sont là. Isabelle Racoffier, juste en un mot, est-ce qu'on ne prend pas assez en compte ces professionnels de la petite enfance qui devraient plutôt rentrer aussi dans les classes, pourquoi pas, comme le suggère Yvan?
Il y a quelques expériences, notamment avec les moins de 3 ans, où justement il y a des éducateurs de jeunes enfants, des ATSEM et un enseignant.
Ah, alors voilà, les agents territoriaux spécialisés dans les écoles maternelles. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à tous. Portez-vous bien.